Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, votre rendez-vous quotidien avec le football. Et pour commencer, nous évoquerons aujourd'hui dans cette émission les Reds, des Reds imbattables, enchaînant une nouvelle victoire aux dépens des Hammers de West Ham. Liverpool compte maintenant 19 points d'avance sur Manchester City. Bientôt le sacre pour ces sacrés Reds, alors que les Citizens ont encore perdu chez eux hier, battus par Manchester United. Quels sont donc les objectifs de Guardiola et de ses joueurs cette saison ? Les belles histoires de la Coupe de France, symbolisées cette année par les amateurs d'Épinal et de Belfort, qui joueront les quarts de finale de la Coupe de France. Des petits poussés, mais de gros clubs aussi, le PSG et l'OM, sont aussi passés hier soir. Le football amateur en proie à la violence et la justice qui tente de sévir pour arrêter ce triste cycle. Exemple de cet arbitre des Alpes-Maritimes où malheureusement l'on oublie trop souvent que le football n'est qu'un jeu. Nous en parlerons de ces faits aujourd'hui dans Radio Foot et notamment avec Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous tapiez pas sur l'arbitre vous j'espère?
Non. Jamais.
Jamais. Et on verra parce que dans le foot amateur, c'est vrai qu'il y a de trop tristes exemples. Dominique Sévrac.
Bonjour mademoiselle, bonjour messieurs.
Vous tapez pas non plus sur les arbitres.
Non, je ne tape
sur
journaliste. Personne, moi. Non.
Même quand le PSG perd.
Je pense que c'est parce que j'ai peur.
Dominique Sévrac du Parisien et puis Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Olivier Pron, bonjour.
Moi je tape sur des bambous et
j'en étais sûr qu'il allait dire ça.
Mais t'es numéro 1.
Oh, mais j'étais numéro 1.
Je connais pas
par cœur depuis.
Oh. Alice Ménard est à la réalisation aujourd'hui. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Et je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous laissent des petits mots gentils sur la page Facebook en signalant d'où ils nous écoutent, que ce soit au Mali, au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso, au Cameroun, ou encore en
attention,
République démocratique du Congo,
oui,
et tous les autres pays.
On les salue, on les salue. Hein.
On nous écoute aussi parfois aux États-Unis ou à l'Est du côté de Moscou. Merci à tous. On ne peut pas toujours vous répondre. Mais c'est vrai que Pierre Guérin a toujours un œil rivé sur la page Facebook et des fois c'est lui qui vous met un petit mot. Radio Foot, donc c'est parti. Le football, victime collatérale du coronavirus. Tous les matchs de football, comme la plupart des disciplines sportives programmées à travers ce vaste pays, sont suspendus au virus et à sa propagation. Ainsi, décision annoncée ces dernières heures par la Fédération chinoise de football, le championnat national vient d'être reporté. Et nous allons donc tout de suite faire un petit tour par Pékin, où la nuit commence à être bien entamée. Ni hao, Stéphane Lagarde. Vous voyez, on se prépare quand on sait qu'on vous a en ligne, en direct. C'est pas si souvent. Stéphane Lagarde, principe de précaution pour éviter la propagation du coronavirus et des mesures assez drastiques dans votre pays, en Chine, pour éviter tout rassemblement et finalement toute promiscuité?
Oui, difficile de jouer les 90 minutes avec un masque contre la grippe, encore que, hein, on peut peut-être le faire, mais quand je regarde par la fenêtre, là, il est... Hein, j'ai mon bonnet de nuit, j'attendais votre appel, hein, je suis presque couché, mais il fait nuit ici. Mais j'ai regardé par la fenêtre toute la journée, il y a une avenue vide en face de chez moi, une grande avenue qui est juste en face du stade des travailleurs, elle est vide toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est impossible simplement de mettre 50 000 personnes devant une pelouse. C'est impossible, pourquoi ? Parce que les joueurs, les supporters, mais aussi tous les Chinois, sont terrifiés par ce Bingdu, hein, comme on dit ici, le virus. Et donc, les autorités ont interdit les rassemblements par peur, vous avez raison, de la contagion. Toutes les festivités du nouvel an lunaire, vous savez, c'était les vacances, tout a été annulé à cause, effectivement, de cette terrible épidémie, les compétitions sont suspendues, on ne sait pas jusqu'à quand, hein, d'ailleurs, Annie, parce qu'on ne sait pas quand va s'arrêter cette épidémie, les chercheurs ne sont incapables de le dire, enfin, il y en a qui disent 10 jours, il y en a d'autres qui disent un mois, il y en a d'autres qui disent jusqu'au printemps. La nouvelle saison de la Super League chinoise devait débuter le 22 février, elle a donc été reportée sine die, ça vaut pour tout le début de saison, vous l'avez dit, les fans vont être déçus, pas de rencontre entre le Guangzhou Evergrande et l'équipe de Shanghai Shenhua, qui était prévue le 5 février. Elle a été également repoussée afin de protéger les joueurs et le public, a expliqué la Fédération chinoise de football. On ne sait pas non plus, par exemple, si le match de qualification pour la Coupe du Monde avec les Maldives, qui devait se jouer le 26 mars, même là, c'est loin, vous voyez, le 26 mars, personne ne peut assurer avec certitude que la Chine sera débarrassée de ce méchant virus à ce moment-là. Et puis les matchs régionaux, la Ligue des champions asiatiques qui était prévue en Chine le mois prochain, elle va être délocalisée. Je pense aussi aux éliminatoires du football féminin pour les Jeux de Tokyo. Je ne vais pas tous les faire, mais enfin, ça devait avoir lieu à Wuhan. Alors là, c'est impossible puisque c'est l'épicentre de l'épidémie. On a pensé ensuite la déplacer à Nankin. C'est pas encore assez loin. Et finalement, les matchs se joueront, vous le savez, à Sydney.
Et Nankin, c'était d'autant plus impossible. Stéphane, bonjour, coucou. Parce qu'il devait y avoir les championnats du monde en salle, exactement dans cette ville, les championnats du monde d'athlétisme. Et ils ont été reportés d'un an, carrément. C'est dire si on navigue à vue et si on ne sait pas bien quand ça va reprendre. Et même les équipes chinoises qui doivent jouer à l'extérieur, parce que dans le cadre de la Coupe du Monde des qualifs pour la Coupe du Monde 2022, la Chine devait jouer à Guam. Et même ce déplacement-là n'est pas certain, parce que bah, c'est pareil. Accueillir des athlètes ou des Chinois supposément en contact avec le virus, bah il y a peu de pays qui sont prêts.
Il y a même l'équipe de France, l'équipe féminine de Chine qui est en quarantaine à Brisbane, en Australie. Donc
c'est un peu la mésaventure hein, pour les Chinois qui s'aventurent loin de leur terre. En plus, elles arrivent de Wuhan, je sais pas bien comment Wuhan, c'est ça, hein, Stéphane, les filles, elles se sont retrouvées en quarantaine, elles sont en fait retenues pour une quinzaine de jours jusqu'au 5 février.
Oui, comme tout le monde finalement en Chine, en tout cas, tous ceux qui sont passés par Wuhan, on est en quarantaine, c'est-à-dire qu'on doit rester 14 jours enfermés à la maison et à se mesurer. Elles ont un pistolet à thermomètre hein, sur la tempe. Heureusement,
elles ont pris.
On attend pour voir s'il y a des symptômes. C'est vraiment inquiétant puisqu'on attend les symptômes et notamment de voir si elles sont fiévreuses. Pour l'instant, heureusement, le docteur de l'équipe féminine a dit qu'aucune n'avait ces symptômes, donc on espère que tout ira bien et qu'elles pourront jouer leur match après. Ça vaut aussi pour les hommes, hein, c'est pas que les filles, évidemment. Les Thaïlandais du Buriram United, j'ai un peu révisé mon football hein, avant de vous parler, ont eux aussi eu droit au thermomètre après leur match. C'était à Shanghai, donc en rentrant, eux aussi ont droit au thermomètre. Et voilà, et on attend évidemment, ça bouleverse tout le monde ici. Moi, je peux vous dire que beaucoup de stars, soit sont partis, soit vont partir. Vont se mettre au vert hein, pendant que l'orage passe.
Et vous, je me suis laissé dire que vous vous préparez personnellement au championnat du monde de puzzle, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Oui, je suis enfermé à la maison, moi aussi. J'attends 14 jours.
Pareil. Oui, ça bouge.
Il faisait les puzzles de son fils pour s'occuper.
Oui, parce qu'il est enfermé lui aussi, Stéphane. Ça, du coup, il a le temps de nous parler.
Ça bouleverse l'économie mondiale et ça bouleverse l'économie du football. Javier Pastore devait quitter Rome pour signer en Chine, et son transfert est remis en cause.
Mmh. Ouais. Et inversement, il y a beaucoup de joueurs non chinois qui évoluent dans le championnat chinois, on sait qu'ils ont de très bons traitements, et qui sont tentés de revenir en Europe. Et si le championnat chinois est suspendu pendant un temps indéterminé, ces joueurs qui peuvent avoir des défis, par exemple avec leur équipe nationale, vont tout faire pour essayer de revenir. Or, on sait que le mercato pour l'Europe clôt bientôt, or pour d'autres pays, ce sera peut-être possible, mais il y a des joueurs qu'on connaît au niveau international, comme Hulk, Oscar, les Brésiliens, et puis d'autres encore.
Eh bien justement, tu peux décrocher ? C'est super.
Une seconde encore Stéphane, juste pour vous faire entendre ce document qu'on a trouvé, Oscar, le joueur de Shanghai justement, eh bien il a mis un petit message sur Twitter en anglais et en chinois pour remercier tous les médecins qui essayent de combattre ce virus.
Hello, I'm Oscar. Thank you all the doctors fight with the virus.
Voilà, il a appris lui aussi à dire quelques mots de chinois, mais effectivement, il y a Hulk, Oscar, Carrasco, Fellaini. On a aussi Cédric Bakambou, Stéphane Biya. Il y a Bruno Genesio, hein, l'entraîneur de l'équipe de Pékin.
Tous les gens qui sont en Chine, qui sont deuxième, passés par la Chine, en fait.
Qui était deuxième de ce championnat. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Stéphane Lagarde, et faites attention au virus. Merci mille fois.
Restez chez vous.
À bientôt. Ciao.
À bientôt. On continue donc, nous, sans virus.
Penalty kick, surely. Up steps Salah. Oh, brilliant. Never, ever a doubt. Sent the goalkeeper the wrong way.
Et oui, même en Angleterre, même dans le nord de l'Angleterre, par 53 degrés nord, eh bien, le soleil peut arriver, n'est-ce pas? Here comes the sun. Nous avons eu un long et froid hiver solitaire. Cela semble faire des années qu'il avait disparu, mais voici le soleil. Évidemment, le soleil symbolisant un titre de Premier League en Angleterre.
Vous avez de bonnes écoutes musicales.
N'est-ce pas? Ah oui, mais les Beatles qui n'aiment pas et qui n'a pas aimé les Beatles. Une victoire donc pour Liverpool Liverpool sur West Ham 2-0. Et puis des records, des records, des records qui s'écrivent donc à l'encre rouge. Les Reds, c'est maintenant 19 points d'avance au championnat, 70 points au compteur sur 72 possibles. C'est aussi... D'ici deux victoires, cette équipe sera qualifiée en Ligue des Champions puisqu'elle a un certain nombre de points. 15 victoires consécutives. Manchester City est la seule équipe à avoir fait mieux en en ayant accumulé 18. Et puis 23 victoires en 24 matchs sans aucune défaite. On parle de record, oui, mais Jürgen Klopp, lui, il ne veut penser justement qu'au soleil.
Nous sommes Liverpool et nous avons notre propre histoire. Tout le monde sait ce que nous avons à faire et la motivation, c'est de décrocher le titre et non pas je ne sais quel record. Maintenant, si cela devait se produire, nous le prendrions, mais nous ne nous en préoccupons pas outre mesure.
Est-ce qu'il feint de ne pas se soucier du record, Jürgen Klopp?
Sincèrement, je crois qu'à Liverpool, 30 ans après le dernier titre, ce qui compte, c'est le titre de champion. On voit bien que l'an dernier, d'ailleurs, ils ont battu des records de points, mais ils n'ont pas eu le titre de champion. Voilà, et c'est ça qui les a frustrés. Donc ce qui est important, c'est le titre. Les records, bon, ils tombent, ils restent, mais ce qui reste au palmarès, c'est d'abord les titres. Et le titre de champion à Liverpool, ça fait 30 ans qu'on l'attend.
Mmh. Et c'était pour ça que je parlais d'un long, très long hiver froid et solitaire. Marc Libra.
C'est un menteur. C'est un gros menteur. Non, mais bien sûr que la saison passée, c'était un mano-mano très intense avec City. City a lâché depuis longtemps. Aujourd'hui, si on peut aller chercher...
Oui, l'année dernière, on se rappelle, ça s'était joué à un seul petit point.
Un seul point, pour parler de ce qui s'est passé sur la saison, les glissades, pas les glissades, un but, enfin...
Eux, ils n'avaient pas glissé, mais ils avaient perdu 8 points d'avance.
Exactement.
Et
non, je crois que le plus important, c'est qu'on va se rappeler d'une époque, par exemple, d'Arsenal, qui était avec des joueurs de grands noms qui étaient invaincus. Là, ils sont en train de... À quel moment ça va s'arrêter, quoi? Et pourquoi ne pas dépasser les 100 points? C'est quoi? C'est City il y a 2-3 ans? C'était 100 points.
Il y a 2 ans.
Alors on a calculé, le total maximal, c'est 114.
C'est 114.
Donc, déjà faire plus de 100 points, c'est un truc de fou.
Non mais ça serait gigantesque et je ne sais pas si quelqu'un, parce qu'à une époque on aurait dit 90, 95 points, mais non, ils ont atteint 100 City. Si eux dépassent, ça restera dans l'histoire. Parce que pour faire ce genre de prestation du début jusqu'à la fin, parce que eux ça fait pas un an que ça dure, ça fait déjà, si on met, ça fait un an et demi, 2 ans depuis que Klopp est arrivé, il a mis quelque chose en place. La saison passée c'est passé pas loin parce que City était là. Mais là, à ce moment-là, ils sont surtout, et quand on est joueur,
oui, mais ils sont
dans
10
champions. Ans, 20 ans, 30 ans, mais ils le sont champions déjà.
Mais
ils
le sont champions.
Mais aujourd'hui, quand tu es joueur, tu es conditionné en te disant, on va être champion, on a ça depuis 30 ans, mais par contre, on va marquer l'histoire du football de partout,
oui,
mais pas qu'en Angleterre.
Assurés quasiment d'être champions.
Ils vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher. Ils vont. Mais là maintenant, qu'est-ce qui te motive? Le titre de champion, allez, vraiment, il y a un accident, tu gagnes plus un match et encore, je suis pas sûr. Mais là, c'est se dire, ok les gars, on l'a. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer d'aller encore plus loin. C'est ça qui te pousse. C'est ça qui te pousse automatiquement. Autrement dit, qu'est-ce que tu dis? Alors oui, il y a des champions, il y a des étapes encore importantes, mais qu'est-ce que tu dis à tes hommes pour les motiver? Les gars, le championnat, il est fait.
19
les gars,
points d'avance, comment motiver?
100 points, si on fait 101, on est bon. Si on fait 102, 103. Mais c'est ça qu'il faut aller chercher.
Dominique,
ils vont le faire.
Avec autant de records et de chiffres absolument affolants, Liverpool cherche quoi? Justement, entrer dans l'histoire, être la meilleure équipe d'Europe du moment?
Ils cherchent sans le chercher, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'écrire une sorte de légende locale, c'est-à-dire qu'on va se souvenir localement à Liverpool de ce Liverpool de Jürgen Klopp pendant des centaines et des centaines d'années, et ils sont en train de franchement on en parlera encore dans très très longtemps de ce que Klopp a fait de cette séquence là ils sont en train de marquer l'histoire du football de manière considérable, ce que
les
fait,
esprits oui un peu fait, comme les galactiques fut un temps Milan
l'équipe de Guardiola
à
l'époque.
Les records témoignent du caractère exceptionnel de ce que vous réalisez, en fait les records en soi c'est pas très important, mais c'est juste des marqueurs d'époque qui disent que voilà on est face à quelque chose d'extraordinaire, ce que Klopp est en train de construire, parce que pour moi, il symbolise un petit peu ce succès-là. Le plus dur, c'est pas de gagner au football, c'est de continuer à gagner. Et donc, il va en finale de Ligue des Champions, il la gagne la saison suivante. Il est deuxième du championnat, ça joue un point. La saison suivante, il a déjà 19 points d'avance, il va être champion. Et Xavier se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Ben, un jour, ça va s'arrêter, évidemment, parce que c'est des cycles. L'Espagne a gagné 2 euros, une Coupe du Monde, puis après, un jour, ça s'est arrêté. Mais n'empêche que cette séquence de l'Espagne qui est très titrée, ben, c'est sa marqueur avec Xavi et Iniesta. Et
il va, oui, mais ça a marqué
et pareil pour Liverpool. Klopp, Salah, Mané, ça va rester dans l'histoire du football.
L'Espagne,
c'est sûr.
L'Espagne,
parce que
ça
c'est
a marqué parce qu'ils ont enchaîné 3 titres internationaux. Ils ont battu plein de records, mais on s'en souvient parce qu'ils ont enchaîné 3 titres internationaux. internationaux. L'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012.
Et pour vous, mais Liverpool n'est pas en train d'entrer dans l'histoire.
Mais ils vont rentrer dans l'histoire s'ils arrivent à enchaîner les titres. Pour le moment, ils ont une Ligue des Champions magnifique. Ils vont avoir un titre de champion d'Angleterre extraordinaire.
Oui, mais c'est difficile à conquérir ce titre de champion d'Angleterre.
Mais ils vont s'installer durablement dans l'histoire et surtout dans l'histoire de Liverpool qui, par le passé, a déjà enchaîné plusieurs fois des titres consécutifs en championnat et en Coupe d'Europe, s'ils arrivent à s'installer durablement. Et pour ça, c'est pour ça que je suis pas forcément de l'avis de Marc Libra. Je pense que s'il y a un moment où il faudra faire un choix entre un match sans enjeu en championnat et préparer une demi-finale de Ligue des Champions avec la perspective de jouer une nouvelle finale et peut-être de garder le titre de champion d'Europe,
mais ça ne veut pas dire qu'ils ne chasseront pas les records quand même.
Non, la priorité, c'est les titres. Oui. La priorité, c'est les titres. Les records, ils viennent parce qu'ils sont dans cette course au titre. Mais au moment, quand vous arriverez en fin de saison, je regardais le calendrier, parce que normalement, ils peuvent être sacrés. D'ailleurs, c'est assez curieux. À l'occasion du match contre Manchester City à l'Etihad Stadium. Ce sera normalement, s'il garde ses 19 points d'avance, il restera derrière plus que 6 journées. Donc, s'il garde cette avance, mettons qu'ils font ce match nul à Manchester City, ils seront sûrs d'être champions. Derrière, il y aura.
Ça sera à quelle date
Ce sera le 4 avril. Derrière, il y aura des matchs contre Aston Villa, contre Burnley, contre Arsenal, contre Chelsea. Et d'un autre côté, ils seront peut-être en lice pour garder leur titre de champion d'Europe. Je pense que le choix, il sera vite fait pour Jürgen Klopp. Le choix, ce sera de garder la Ligue des Champions, évidemment.
Sur certains matchs, il a fait tourner énormément et ça l'y a réussi, oui. Sauf une fois.
Et ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue, oui. Et là, ils vont être éliminés de la Cup.
Oui, mais la priorité, parce qu'il y avait eu le mondial des clubs, ils étaient pas là.
Ils ont mis les bébés.
Parce que la priorité, c'est le titre de champion et la Ligue des Champions.
C'était le mondial des clubs aussi. Mais c'est un titre en plus. Le mondial des clubs, c'est un titre en plus. Ils ont remporté le mondial des clubs, ils remportent le titre de champion et ils sont tenants du titre de la Ligue des Champions et encore en course. Mais moi, ce qui me fascine à Liverpool, c'est qu'on parle sans arrêt de ce trio d'attaque exceptionnel, Firmino, Mané, Salah. Mais tout à l'heure, je regardais les stats de la défense de Liverpool, elle va battre des records aussi. 15 buts encaissés en 24 matchs. Pour Alisson Becker, il fait une clean sheet sur deux. C'est-à-dire, il a joué 16 matchs, 8, il n'a pas encaissé un but. Pour vous donner un ordre d'idée des 15 buts encaissés en 24 matchs, la deuxième meilleure défense de Premier League, c'est Sheffield, qui est 8e, qui en a encaissé 23. Leicester, 2e, en a encaissé 24. C'est dire si, en plus, défensivement, c'est du très très haut niveau. 15 buts en 24 matchs en Angleterre.
Il est possible, Olivier, qu'ils aient et le meilleur gardien du monde et le meilleur défenseur du monde.
Exactement.
Mais vous qui avez joué en Angleterre, à l'Angleterre, on marque. On n'est pas connu pour avoir des défenses hermétiques.
Récemment, ils ont pris un but. Ça faisait plus d'un mois qu'Alisson Becker n'encaissait pas de but avec toute la période du Boxing Day et tout. Oui, mais je comprends pas votre définition de durée, parce que par exemple, les Galactiques, ils n'ont pas duré 10 ans sur l'Europe. Le Guardiola et le Barça n'ont pas duré 10 ans ou 5 ans.
Moi, ça suffit ce que j'ai vu là.
Moi aussi, je vote. Ah ouais, ça suffit.
Pour marquer l'histoire.
Pour être un marqueur, pour être.
Ils ont déjà été champions d'Europe. Si en plus ils sont champions d'Angleterre et tout, c'est déjà extraordinaire.
Ah ben à ce moment-là, on dira, ce sera une équipe météore.
Ah non.
Mais si. Vous dites ça des Galactiques ou de celle de Guardiola?
Le Barça de Guardiola, il a dominé l'Europe pendant 4 ans. Alors, oui. Il n'a pas eu la Ligue des Champions tous les ans, mais il a été champion d'Espagne, il a tout gagné pendant 4 ans. Là, à Liverpool, il commence à gagner. Moi, je pense qu'effectivement,
on se souvient de l'Inter Milan qui a eu une saison, 3 titres aussi. Elle a marqué en 2010. Oui,
avec Eto'o latéral, on s'en rappelle qui jouait derrière.
L'Inter a marqué l'histoire. L'Inter, ça
a été. Non, mais il y a des finales de Ligue Europa.
Ça a été une irruption comme ça.
Des finales de Ligue Europa qui. L'Air Club commence par des finales de Ligue Europa. Et pour moi, c'est pas parce qu'on perd on n'a pas raison quand on gagne et on perd, on est nul. Pochettino, il a perdu la finale des Champions il y a 6 mois. Il est aujourd'hui sans club. C'est pas un nul. Il est allé en finale des Champions avec Tottenham. C'est magnifique.
Je pense que ce qu'a fait Pochettino, effectivement, par rapport à ce qu'était Tottenham, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les joueurs veulent quitter Tottenham, ou en tout cas Eriksen commence à partir et d'autres aussi? C'est parce qu'ils n'ont pas de titre, justement. C'est ce qui leur manque. Ils ont même pas gagné une Coupe de la Ligue ou une Cup.
Pas romantique,
que
dalle.
Quand vous regardez le palmarès de Tottenham, la période Pochettino, c'est vrai, ils se sont hissés dans le Big Four, et ça, c'est déjà une performance remarquable en Angleterre, mais il n'y a pas un trophée pour couronner ça.
En tout cas, Annie, il y a des clubs comme le Paris Saint-Germain, comme Barcelone avec Suarez, comme le Bayern Munich avec ses Français, où il y a beaucoup de blessés, et Liverpool, il n'y a jamais de blessés majeurs. Il n'y a jamais aucun joueur de la dimension de Salah, de Van Dijk,
Il y a quand même
de Mané.
Il y a Sadio Mané qui est blessé.
Non, mais 2 semaines.
C'est une fracture, c'est pas...
Voilà, c'est
pas l'hécatombe au Paris Saint-Germain.
Donc pour moi, c'est préparation, elle a été bien faite, hygiène de vie très correcte. Voilà, c'est quand même un club qui fonctionne bien partout.
C'est une manière, on parlait de Liverpool l'autre jour dans Radio Foot, et c'est aussi un des critères de recrutement de cette équipe de Liverpool, c'est l'hygiène de vie des joueurs. Effectivement, on fait attention. Bon, ils sont peut-être pas trop tentés par la night de Liverpool.
C'est sympa, c'est pas dingue.
Ça bouge. Sadio Mané, il est blessé. Si vous voulez faire la fête, croyez-moi, ça bouge.
Sadio Mané, il est blessé là 2 semaines.
Mais c'est pas Londres.
C'est le contraire qui serait étonnant. Heureusement qu'il peut être blessé. Il a joué combien de matchs? Il a joué la CAN, il est allé au bout, il a eu 3-4 semaines de vacances. C'est ça qui est...
Moi, j'appelle les blessures, les trucs qui vous éloignent un ou deux mois, quoi.
Bien sûr, et qui manquent vraiment à l'équipe. Alors, pendant ce temps, justement, Manchester City, ils sont toujours deuxièmes, hein, Olivier, c'est bien ça. Ils sont deuxièmes à 19 points.
Oui, c'est Leicester qui est...
Leicester sur les talons.
Mais ils sont doublés.
Ouais. Ils jouaient, eux, en Coupe de la Ligue anglaise, la Ligue Cup. Bon, les Citizens sont qualifiés pour le prochain tour, mais grâce au match aller où ils étaient allés gagner 3-1 à Manchester United. Et Manchester United, hier soir, est venu les battre dans le stade de l'Etihad Stadium. Défaite 1-0, c'est pas dramatique, puisque on va écouter Pep Guardiola, il préfère s'attacher à la manière plutôt qu'au résultat.
À Old Trafford, au match aller, j'avais dit à mes joueurs qu'on visait un résultat et on l'a obtenu. Pour le retour chez nous, je leur ai demandé d'être terriblement offensifs dans le jeu. Et c'est ce qu'on a fait. Les gens ne peuvent pas nous reprocher d'avoir juste joué pour préserver le résultat. On avait 6 à 7 gars sur le terrain, portés vers l'attaque et la créativité. Et juste 2 défenseurs centraux pour protéger nos arrières. Couvrir les espaces n'a pas été simple, mais ça on savait. Sur l'ensemble de la rencontre, moi je trouve que l'on a plutôt été assez bon.
Une défaite encourageante, hein, la fameuse expression qu'Habib Bey ne supporte pas. Marc Livra.
Je confirme.
Ben oui, surtout quand on
On a gagné 3-1 à l'aller, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'il y a une préparation mentale différente.
Marc, c'est amusant parce qu'en ce moment, on voit que Barcelone a viré l'entraîneur alors qu'ils étaient en tête de la Liga, Ernesto Valverde, parce que le Barça n'a plus la manière. Alors pour l'instant, ils ont ni la manière ni le résultat. Mais Pep Guardiola, là, il a l'air de dire, bon, au moins, nous, on a la manière. Et c'est vrai que ces City qui était double champion sortant d'Angleterre. Ce dont on se souvient, c'est aussi le jeu absolument magnifique qu'ils offrent. Est-ce que c'est important aussi de sauvegarder l'image et le style du club?
C'est de garder l'ADN de Guardiola, c'est ça le plus important. S'il arrive à le faire, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Mahrez joue pas? Est-ce que De Bruyne est au niveau, pas au niveau? Parce que quand il est au niveau, c'est impressionnant. Quand Mahrez est à ses côtés, puisqu'il avait été sorti pour quelques matchs, il revient. Après, il y a quelque chose qui est en place et au-dessus, c'est trop fort. C'est-à-dire que Liverpool, c'est trop fort. La saison passée, c'est un mano-mano. Là, il y a rien à redire. Donc,
mais là,
lui fait son propre championnat.
C'est pas trop fort.
Mais Annie, avant ça, il y a quand même ce match-là où 3-1, où ils vont là-bas, ils s'imposent et puis c'est fini. Après, on se dit, pensons que, OK, la première ligue, c'est joué. Maintenant, ce qui nous reste, c'est la Ligue des Champions dans pas longtemps qui arrive. On se conditionne, on se prépare, on fait jouer les joueurs qui vont bien, tout. Et puis après, on déroule. Parce que aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il leur reste à Citizen, là, comme objectif? Ligue des Champions?
Ah oui, la Ligue des Champions.
Ah oui, il y a un match incroyable qui les attend.
Voilà. Exactement. Et on a entendu Zinedine Zidane dire tout simplement on va les battre.
Bah forcément la club se commence, mais moi c'est quand même un choc indécis, incertain. Je peux pas dire aujourd'hui autant Liverpool qui va jouer contre l'Atlético de Madrid, je pense que Liverpool est logiquement favori. Autant Paris peut se faire éliminer par Dortmund, mais il me semble que Paris est plutôt favori contre Dortmund. Là, franchement, j'en sais rien du tout. Là, c'est un choc de titans, c'est monstrueux. C'est bien que Guardiola reste focalisé sur son discours fondé sur le jeu et sur les idées, parce que voilà, à l'heure où le football de plus en plus c'est une sorte d'incarnation de la rentabilité dans tous les domaines économiques et même sur le terrain, parfois on a l'impression que les joueurs ils jouent mécaniquement pour une sorte de le résultat. Et ben lui, il garde sa philosophie. Voilà cette doctrine du football qui aura aussi marqué son époque, parce que Guardiola, que ça soit à Barcelone, à Munich, à City,
il fait bien jouer quand
il a pas gagné partout. Je sais qu'à Munich on me dit il a fait 3 demi-finales de suite de Ligue des Champions, c'est pas terrible.
Alors, et 3 titres de champion d'Allemagne, bien sûr.
Déjà, donc oui, on ne gagne pas toujours, mais encore une fois, c'est pas celui qui gagne qui a toujours raison.
On se souvient au moins du style.
Ce qui est remarquable dans le match d'hier, c'est qu'effectivement, combien d'entraîneurs seraient allés jouer un match retour chez eux alors qu'ils avaient gagné donc 3-1 à l'aller. En alignant comme ça 6 ou 7 attaquants, parce que c'est vraiment le cas. Ils ont joué, mais l'attaque à bloc, et ils ont pas du tout été récompensés, parce qu'ils ont eu, je crois, 13 ou 14 frappes. Alors, un peu moins de cadrés, c'est vrai, mais à l'arrivée, bon, Manchester United marque et finalement maintient le suspense jusqu'au bout, parce qu'en cas d'égalité, il y avait tir au but. En cas de deuxième but des Red Devils, il y avait tir au but. Mais on voit que cette philosophie de jeu, elle est tout le temps là. Elle est, même quand on est presque assuré de la qualification.
Et à notre époque, on peut admirer ça.
Et du coup, le résultat, c'est quoi? C'est que le stade hier, l'Etihad Stadium, il était plein. Alors, ok, c'était un derby. Mais un derby en milieu de semaine, quand le match est joué, c'est pas gagné que ce soit plein. Mais là, les gens viennent parce qu'ils voient, ils ont envie de voir les Citizens se faire du spectacle, attaquer. Et finalement, à l'arrivée, on voit un superbe match.
Et bien voilà pour ce qui est de l'Angleterre, donc. Et c'est vrai qu'on attend ce huitième de finale de Ligue des Champions en Real. Manchester.
Vous n'attendez pas les autres.
Match aller, non.
c'est le plus grand match à Bernabeu.
Ça va être le Real Madrid qui se retrouve dans le groupe B, finalement, le premier match à Bernabeu. Ça risque d'être très très chaud avec ce Real Madrid de Zinedine Zidane, on l'a bien vu, hein, qui est de plus en plus en forme et en tête de la Liga. La Coupe de France, fin des huitièmes de finale, avec eh bien les jolies histoires, hein, celles des petits qui mangent les gros ou les grands. Nouvel épisode, ou plutôt deux épisodes à ce stade, deux équipes de quatrième division qui se retrouvent donc en quart de finale, aux dépens, surtout c'est ça l'exploit, aux dépens de Ligue 1. Et commençons par Épinal dans l'Est de la France, une ville que Olivier Pron connaît, il va nous le raconter. Ils ont éliminé le club du Nord, les Chiens de Lille.
Épinal qui passe devant dans ce huitième de finale. C'est Grasso.
On se procure des occasions. On tire sur le poteau, on n'a pas lâché, on a tout donné. Des hommes sur le terrain, voilà. On a montré ce qu'on savait faire et puis ça a payé jusqu'au bout. Et on a su rester serein et on a été costaud dans les têtes. Et bah, la preuve en est, on a réussi à gagner ce match dans les 90 minutes.
Espinaliens avec du beau football, on n'a pas vu la différence entre les deux équipes. On est fiers d'Espinaliens ce soir.
Saint-Étienne, Paris, Dijon, Rennes.
Belfort.
Le tirage au sort aura lieu ce soir seulement et ils doivent attendre avec impatience ces joueurs d'Épinal. Olivier, vous avez le privilège de le connaître, ce petit stade qu'on a vu avec plein de gens envahis.
Vous n'êtes pas allé jouer là-bas, vous mettez les bras avec l'OM, hein,
je m'en rappelle.
Parce qu'ils ont été une dizaine de saisons, hein, entre 74 et 97, ils ont joué 10 saisons en Ligue 2, en D2 à l'époque. C'est le stade de la Colombière, c'est un stade qu'on n'oublie pas parce que c'est un petit stade champêtre.
On est perdu, je crois. Épinal,
ça
doit être quoi,
30-40 000 habitants. L'image d'Épinal, toujours connue. Il y avait un pilier dans ce stade, un homme politique français qu'on a tous bien connu,
Philippe
qui était un vrai amoureux de foot, Philippe Séguin, qui a eu un rôle au sein de la Ligue, il me semble, à une époque, qui est mort il y a quelques années. Il ne ratait jamais un match été comme hiver. Il était là, Philippe Séguin. Et c'est vrai que c'est un tout petit stade et c'est une ambiance particulière d'aller comme ça dans les Vosges. On n'est pas tout à fait dans la montagne, hein. C'est dans les basses Vosges, mais c'est un club qui, comme ça, au gré, alors qui est descendu de National, qui est jamais resté très longtemps en Ligue 2, qui est descendu en National et puis qui, là, en National 2, puisque c'est ça la quatrième division, a un peu de mal à remonter depuis 2-3 ans. Ce sera pas pour cette année, hein. Ils sont 7e de National et Sedan qui est en tête à 20 points de plus qu'eux.
Mais voilà, ça a son charme. Cet hiver.
Oui, voilà.
Ouais. Pas fini.
20 points de retard,
c'est possible.
Pour 350 euros.
C'est le charme de la Coupe de France, c'est pour ça que cette compétition est belle.
Justement, nous on est séduits par cette période de ces petits clubs qui essayent de se hisser le plus loin possible, Marc. Est-ce que quand on est joueur, on est sensible aussi à ça?
Quand on est pro, quand on rencontre une petite équipe, on veut surtout pas se faire taper, quoi. C'est ça, surtout.
Ça serait un peu la honte.
Moi, j'en ai évité 2 ou 3, je suis passé pas loin, mais on s'en est sorti. Après, c'est pour venir sur déclaration, je crois que c'est le coach qui dit, on n'a pas vu la différence face à Lille. C'est catastrophique pour Lille, parce que Lille, ils sont au-dessus, mais quand on ne se met pas au niveau, le football vous rappelle vite les fondamentaux du football. Quand on n'est pas sérieux, quand on se prend pour un autre, quand c'est vrai que le terrain est assez dur, les crampons, mes beaux crampons, ils vont être salis, le vestiaire, on rentre pas les malles, c'est pas, mais tout ça, c'est, alors le bus, on est descendu dans la foule, ça nous perturbe. Mais tout ça, si on n'est pas conditionné au niveau de la tête, l'écart, il se réduit, et le coach a dit, ils étaient au même niveau que nous. Très bien. Mais c'est une équipe de Ligue 1 qui jouait il y a pas longtemps contre quoi? L'Ajax, contre des grandes d'Europe, et qui va perdre à Épinal parce qu'Épinal a mérité. Mais quand il dit on était au même niveau, t'es au même niveau parce que Lille ne s'est pas mis au niveau. Et oui, heureusement que ça passe.
Mais ce qui est fort dans cet exploit, c'est qu'ils sont menés d'abord quand même.
Oui.
Et donc ça, c'est ça,
c'est peut-être ce qui tue Lille aussi. Quand Rémi, c'est Rémi qui marque
dans la 8e minute.
C'est peut-être ça qui dit
bon. Mais quand t'as 4 divisions d'écart et que t'es mené, tu te dis bon, ça va être difficile aujourd'hui. Et puis finalement, tu renverses le truc. Là, je trouve que l'espoir, il est considérable en fait.
Vous parliez de l'entraîneur Xavier Collin, il en connaît un rayon.
Ah, Xavier, mon voisin,
Xavier Collin, c'était l'un des joueurs de Guenion quand Guenion remporte la surprise générale, la Coupe de la Ligue
2000.
En 2000 en battant le Paris Saint-Germain. Il avait déjà emmené le club en huitième de finale en 2018 et il y avait eu un exploit comparable aussi pour Épinal en 2013 où ils avaient atteint les huitièmes de finale en sortant Lyon au tir au but et Nantes au tir au but. Donc en 7 ans, c'est un club qui pour la troisième fois vit une vraie épopée en Coupe de France. C'est la quart de finale, c'est du jamais vu.
C'est le plus beau gentilé français, c'est les Spinaliens. On dit les Spinaliens, c'est magnifique les Spinaliens. On dirait un peu Spinoza, on dirait un peu. C'est génial quoi, j'adore les Spinaliens.
On voit les
lyriques. 950 000 euros de budget.
De Domi. Voilà, Xavier, on a des clubs. Olivier parle d'Épinal, mais on se souvient des aventures de Quevilly. Bon, après il y avait eu l'aventure de Calais et de. Mais ceux qui se spécialisent presque un peu dans ces aventures et ces épopées en Coupe de France, qu'est-ce que ça leur rapporte au club?
Bah ça leur apporte un peu d'argent,
hein. Oui.
Même les dotations
quand,
ont été
quand les équipes laissent l'argent.
Non, ça c'est les recettes guichets, mais il y a aussi la prime versée par la Fédération française de football, qui est souvent une bouée d'oxygène pour ces clubs qui ont de plus en plus de mal à tenir.
6 millions d'euros de budget, ça, on crache pas sur.
Bien sûr, parce qu'il faut voir
une
que ces clubs.
Une bouffée d'oxygène.
Une bouffée, oui, parce que il faut voir que ces clubs qui sont Ligue 2, National 2, c'est des clubs qui en fait essayent de se professionnaliser, mais n'ont pas de visibilité à long terme sur leurs ressources, parce qu'il y a de moins en moins de sponsors, il y a les collectivités territoriales qui donnent de moins en moins d'argent, voire plus du tout, donc du coup ils sont en permanence dans le bricolage, et les joueurs qu'ils ont dans leurs effectifs sont souvent des professionnels cachés, alors il y a les fameux contrats fédéraux, alors il y en a 3, il y en a 4, il y en a parfois une dizaine, ce sont
des
joueurs qui en fait sont salariés par le club.
Mais payés au SMIC.
Pas toujours,
on en avait parlé dans cette émission il y a quelques semaines, ça peut monter à 3-4 000 euros
exactement, oui, il y a des contrats fédéraux importants, et donc ces clubs-là se retrouvent avec chaque année l'obligation de dégager des recettes, et parfois ils n'en ont pas, c'est comme ça qu'ils disparaissent, puis qu'ils reviennent, donc la Coupe de France pour eux, ça peut être effectivement un beau parcours en Coupe de France, c'est une vraie bouée ou bouffée d'oxygène.
Et ça peut être aussi une belle mise en valeur. On va s'arrêter sur Jean-Philippe Crasso, buteur et double buteur même hier soir avec cette équipe, lui, formée à Lorient.
Ouais, c'est vrai que ce but de Loïc Rémy nous a mis un coup sur le moral. Mais après, voilà, avec cette coéquipier, on a réussi à se remobiliser directement. Et au fur et à mesure du match, on commence à avoir des situations. Et à la mi-temps, on s'est dit que voilà, il y avait la place pour pouvoir faire quelque chose. Et après, on a vu qu'on a eu plusieurs occasions encore. Et après, mettre ses deux buts, c'est magnifique.
Et puis là, vous arrivez, Magic Crasso, en fait, vous surgissez deux fois de suite à 9 minutes d'intervalle. Ces deux buts, c'est un truc extraordinaire.
C'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Un grand moment de joie. Ça me fait plaisir aussi pour mes coéquipiers. Dans ce vestiaire, on est comme une famille. Il y a les vestiaires où on dit, ouais, c'est une famille. Mais là, c'est vraiment une famille. On s'aime tous. Et c'est magnifique de vivre ces moments-là ensemble.
Alors vous aviez sorti le petit pousset de la compétition la dernière fois, la Saint-Pierroise des Réunionnais. Ouais. Là vous devenez à nouveau le petit pousset de la coupe. Ouais. Vous voulez aller jusqu'au Ligue 1, tirer Belfort, pourquoi pas aller en.
Pourquoi pas gagner la coupe? Pourquoi pas gagner la coupe?
Eh oui, ramener la coupe à la maison, c'est un refrain, n'est-ce pas, Dominique? Jean-Philippe Crasso au micro de France 3, nos confrères qui retransmettent le match.
Je peux vous dire qu'ils veulent qu'une chose pour avoir lu depuis ce matin, que ce soit Belfort ou Épinal, ils veulent le PSG ou l'OM. Hein. On avait même qui disait oh non, pas Dijon, Non, surtout pas Belfort. Non, évidemment, ils veulent Paris Saint-Germain ou l'OM. C'est un match de gala.
L'exposition, parce que vous disiez qu'est-ce que ça rapporte, Annie. Moi, je suis de Saône-et-Loire, donc en 2000, quand Guenion a gagné la Coupe de la Ligue, donc c'est un club de Saône-et-Loire, c'est le plus grand club de Saône-et-Loire. Mais vous vous rendez pas compte de la fierté qu'on ressent. Les gens.
Aujourd'hui encore, on en parle de Guenion.
Mais bien sûr.
Alex Dupont, l'entraîneur.
Bien sûr. Qu'est-ce qui fédère des gens? Vous avez vu, vous connaissez la France, vous vivez en France. La seule fois que vous avez vu 20 millions de gens dans la rue contents, c'est quand la France a gagné la Coupe du Monde. Donc, quand une ville comme comme Épinal dont on parle jamais, ou quand on en parle, c'est parce qu'il va y avoir un fait divers. Bah, vos petits gars là, qui sont semi-amateurs, semi-pro,
ceux gagnent... qui vont travailler le matin.
Bah oui,
après.
Ils gagnent, ça rend une fierté, ça donne quelque chose à la ville. On se retrouve tous derrière ça, et ça soude un peu les liens. C'est ça aussi ça le foot. C'est pas que du business et que des agents vers eux et tout ça. C'est parfois de belles histoires de entre potes, de gens qui arrivent à faire tomber des professionnels. Je trouve c'est ouais, un peu génial quoi.
Parfois de moins belles histoires. Courez voir coup de tête hein, de Jean-Jacques Hano, c'est aussi une épopée de Coupe de France.
Ah ouais,
c'est une sacrément belle histoire.
C'est
une fiction de la Coupe de France. Vraiment. Bah oui, mais ouais, c'est aussi. C'est une épopée en Coupe de France et ça dit bien ce qu'est la Coupe de France dans ces petites villes là aussi. L'engouement populaire, ça peut être une fiction, Xavier. C'est exactement comme ça que ça se passe dans les petites villes de province.
Exactement.
Non, mais je vais pas dire le contraire. Ma mère étant vosgienne, je suis très content de toutes ces louanges qui sont faites.
On dirait pas.
Épinal.
On dirait pas.
Et allez voir Coutet.
Jean-Philippe Crasso.
22 ans, vous l'avez dit, formé à Lorient, il est passé par Chilty Game. Ça n'a pas tout à fait aussi bien marché qu'il l'aurait souhaité au moment où il était à Lorient. Je suis allé voir sur sa page Facebook, manifestement, donc, origine ivoirienne, grand fan de Didier Drogba. La photo de lui, c'est à côté du maillot de Didier Drogba avec le maillot des Blues de Chelsea.
Et qui sait si, on lui proposera pas quelque chose de mieux qu'une Nationale 2 à l'issue de cette épopée. Alors, il y a eu Épinal, il y a eu Belfort. Écoutons l'ASM Belfort qualifié aux dépens de Montpellier.
On a fait plaisir à notre public, à toute une ville, à nos supporters, bénévoles, dirigeants, partenaires. Ce soir, on a fait le match parfait.
Ouais, la nuit a été courte, j'ai dû me coucher vers 4h du matin. Après, à 6h30, il fallait se lever pour aller au travail. Donc ouais, c'était assez court.
Montpellier, on disait que c'était pas un bon choix. Mais je veux dire, c'était moi, j'étais déjà très content. Mais en plus, on passe. Alors moi, je vends toujours le Paris Saint-Germain. Oh, Marseille, Saint-Étienne, Lyon, on verra.
Et oui, au pied du Lyon, hein, on a des rêves. Hein, on a des rêves de Stade de France, certainement. C'était là aussi le piège. Bon, alors Montpellier, ça va un peu moins bien que Lille. Mais du coup ils se sont fait aussi surprendre.
Le championnat c'est très bien Montpellier actuellement.
Oui. Sans doute, mais en tout cas, ouais. Là, ils se sont fait surprendre, Xavier.
Ah bah oui, puis ils sont tombés sur une équipe de Belfort que moi j'avais déjà commenté au tour précédent sur Eurosport contre Nancy, autre club professionnel, et qui était passé 3-1. Donc on voit que c'est un club qui a un vrai vécu maintenant au niveau de la Coupe de France et qui sait gérer ces rendez-vous-là. Mais c'est pas tout à fait étonnant parce que quand on regarde effectivement le profil des joueurs, Olivier Pron citait tout à l'heure l'attaquant d'Épinal, 7/11 ont fait des centres de formation. Et c'est effectivement ce que l'on retrouve dans la plupart de ces clubs de National, National 2, National 3. Ce sont des gamins qui, à un moment ou à un autre, ont raté quelque chose, n'ont pas pu avoir une carrière pro, mais ils ont eu la formation. Donc quand arrive un rendez-vous comme ça, contre ceux qui rêvaient de faire, ils vont pas le louper.
Ils ont pas raté grand chose, Xavier, c'est parce que c'est très très dur en fait d'être un professionnel de foot, quoi. C'est une exigence incroyable, et donc il y a plus fort qu'eux, mais ils ont pas raté grand chose, et c'est une sorte de seconde chance. Alors là, Nice demandait si certains seront contactés, j'espère pour eux. En foot, il y a rarement une deuxième chance qui repasse à 22.
Non, mais je parle pas par le Paris Saint-Germain, mais peut-être par une équipe de
national. J'espère vraiment, mais en tout cas, c'est
national ou Ligue 2. Le coach me racontait, là, Anthony Akkar, il me racontait que lors d'un match contre la réserve de Lille en championnat national 2, il y a quelques temps, il y avait 4 ou 5 clubs étrangers qui venaient superviser les adversaires, parce qu'effectivement le LOSC est un club formateur assez réputé. Qui est-ce qui empêche un recruteur de se dire punaise, le petit en face là il est bon, pourquoi je le prendrais pas? Regardez, le gardien par exemple de l'ASM Belfort, c'est un gamin qui a 18 ans. Il vient d'être promu, pur produit du club de Belfort. Il est un peu passé par Sochaux.
Il a un avenir, peut-être.
Et le gamin, il a 18 ans, il arrête des pénaltys. Là, il s'illustre dans la série de pénaltys contre Montpellier. Donc, qui sait, ce gamin-là, il a pas été pro, il a raté un moment une marche, mais la deuxième chance, elle va peut-être se présenter pour lui.
En tout cas, ils tomberont peut-être, s'ils en rêvent, comme vous le dites, Dominique, sur le PSG. PSG qualifié hier. Alors bon, assez facilement, c'était aux dépens de Pau, grâce notamment à un joli premier but, celui de Leandro Paredes, l'Argentin. L'Argentin, quand on l'a vu venir, on l'a un peu regardé bizarrement. Finalement, là, il a été promu capitaine. Hier, c'était une équipe B hein, du Paris Saint-Germain, assez clairement. En tout cas, il n'y avait pas les stars ou les très grandes stars. Est-ce que ça motive plus particulièrement un joueur quand on est promu capitaine?
Ah, je pense que quand même... il a dû trouver ça touchant parce que ça fait un an qu'il est là, ça fait un an qu'il y a des doutes. Il a été acheté aux élites de Saint-Pétersbourg à un tarif incroyable, 47 millions d'euros.
Incroyablement cher.
Juste avant Manchester. Incroyablement cher. Ça fait un an qu'on nous explique qu'il est Sentinelle. Alors Sentinelle, c'est le garçon qui joue dans la défense.
Fameux numéro 6 voilà, qu'on trouve
pas.
Il
n'a absolument pas les caractéristiques pour jouer à ce poste-là. Il lui manque que de la, il lui manque un peu
la grinta.
Ouais, un peu d'impact. Alors, il est très dur. Je sais que les joueurs de Ligue 1 trouvent qu'il est très très violent dans ses tacs, très dur, très agressif, mais il lui manque quand même beaucoup de dimensions. C'est pas N'Golo Kanté. Pourtant, il a pas le physique de N'Golo Kanté. Il a presque plus de puissance. Donc, il y a vraiment beaucoup de doutes.
Dans c'était le vestiaire, un 10 au début de sa carrière.
Ouais, dans le vestiaire, ça se passe bien. Il a été vraiment adoubé par les Sud-Américains, Neymar en tête. Donc ça va. L'intégration sociale, c'est bon. Footballistiquement, je suis pas renversé, par le milieu que je vois depuis un an. Donc le geste de Thomas Tuchel de le promouvoir capitaine, le but, le petit cœur pour la famille. Là, je pense que c'est des attentions touchantes. Vous savez, c'est à peu près l'équipe qui va jouer à Dortmund, mais chaque jour il y a un peu un blessé. Là il y a Marquinhos qui est blessé en ce moment, donc il y a une place à prendre au milieu avec Verratti. Ça sera peut-être Ganagay, moi c'est ce que j'aimerais, mais ça sera peut-être aussi Paredes. Donc il a peut-être un petit coup à jouer en vue du match très important qui s'annonce. Donc voilà.
En tout cas la pelouse était assez pourrie et Neymar n'était pas dessus. Sans doute que c'est bien. Par contre il y a Colin Dagba qui s'est blessé. Oui. C'est peut-être embêtant pour la défense parisienne. On verra ça. L'OM s'est qualifié. C'était à domicile. Il n'était pas plein, là. L'Etihad Stadium était plein, mais là, le Vélodrome, il n'était pas plein. Mais pourtant, ils ont gagné.
C'était à 10 euros, pourtant.
3-1.
Trop tard.
3-1.
Trop tard, le match.
3-1 contre Strasbourg. Magnifique but. Le premier de la série des trois. Il est signé Bounassar.
Attention à ce bon déboulé pour les Marseillais. La frappe derrière de Bounassar. L'ouverture du score pour l'OM. Oh, c'était Lionel Messi, là, dans la défense de Strasbourg. L'exploit parfait, personnel, de Bounassar qui débloque l'OM. 1-0.
Enthousiasme fou de nos confrères de France 3. Dimitri Payet à la baguette, Bounassar qui marque, l'OM ça va plutôt bien, Marc.
Oui, puis il récupère surtout. Ce sont les trois joueurs qui étaient absents le week-end dernier face à Angers, ce triste 0-0 où Angers, à la différence de certains clubs anglais, viennent pour ne pas jouer, mettre le but, c'est fermé. Mais non, c'est très très bien avec un Payet à ce niveau-là qui joue sur un côté gauche et très important. Sarr qui met un but d'anthologie, le petit Camara qui est de retour aussi, qui est beaucoup plus important que ça dans cet effectif aujourd'hui. Je pense qu'il a vraiment gagné ses galons. Et pour revenir juste au but de Sarr, on parle souvent du travail d'Olivier Giroud, des attaquants, le travail de l'ombre ou le travail sans ballon. J'ai tout regardé, j'ai vu le match hier soir, j'ai regardé plusieurs chaînes, toutes les chaînes, les journaux ce matin. Personne ne parle de Germain. S'il marque ce but, c'est grâce juste à Germain. Ça s'appelle vrai. Ouvrir la porte. Personne ne l'a spécifié. Alors par contre, ils sont bons. Germain, il est mauvais. Il est mauvais. Mais juste ce but d'anthologie, il vient grâce à un joueur qui est à 25-30 mètres, ouvre la porte, qui envoie Mitrovic carrément sur le côté. Mitrovic, il réagit trop tard, c'est fini. Et puis ça, il fait son extérieur.
Et c'est fou, c'est que... Plus de...
Non, mais c'est pas ça. Non, il n'y a rien.
Je suis content qu'il dise ça parce que...
Mais c'est important vrai. De le dire. C'est très important le travail.
Icardi a eu 2 dans l'équipe et 3 dans le Parisien, je crois. Et moi, j'ai défendu l'idée que c'est lui sur le but de Neymar.
Exactement.
Qui ouvre l'espace, qui permet à Neymar de marquer. Et donc ce travail invisible, j'ai prêché dans le désert parce que j'étais le seul à dire ça.
Et hier, il fait une passe décisive aussi.
Mais c'est pas parce que tu touches 9 ballons dans un match. Mais faut voir les ballons que tu touches, faut voir les espaces que tu crées pour les autres.
Benedetto a été ce week-end encore raillé le lundi matin. Il est pas bon. Benedetto, les deux occasions importantes de Radonjić dans le dos, c'est lui qui les crée, c'est lui qui fait les ouvertures. Donc ce rôle-là, il est important dans une équipe. Et Germain, je suis content pour lui.
Eh ben on est content aussi pour l'OM. L'OM qui continue aussi en Coupe de France. Allez, on continue et on termine avec un sujet un peu moins drôle.
On va être moins content.
Une manifestation d'arbitres sifflés à la bouche, vous l'entendez, c'est rare et assez triste aussi pour être souligné. C'était une manifestation d'une centaine d'hommes en noir qui s'est déroulée à Mont-Saint-Barœul, c'est près de Lille, à l'automne dernier. Et ils avaient cette banderole « Arbitre agressé, le football en danger ». Ces derniers jours, justement, un entraîneur amateur des Alpes-Maritimes a été condamné, suspendu de toute activité dans le football pour 20 ans. Et ces jeunes joueurs qu'il avait imités pour s'en prendre à l'arbitre ont... eux étaient exclus pour 9 ans de la pratique du football. Écoutez les violences qu'a subies et que raconte Dylan Bayard, l'arbitre de ce match.
Ouh là 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 là, Il faut qu'il arrête le match. Hein. Ah, tu fumes, t'arrêtes.
Ça s'est passé ici, entre la ligne de but, la ligne de touche et la ligne de la surface de réparation. Il approchait trop, donc du coup, j'ai dû mettre mes deux mains à plat au niveau de son torse pour le repousser comme geste de protection. Et c'est là qu'il a commencé à m'insulter. Après, il a commencé à me donner des coups, tout ça. 3 coups de poing au niveau du visage et du crâne. J'aurais pu mourir, j'avais vraiment très peur. Ça a duré 1 minute, mais la minute, elle est très longue quand on se fait agresser au sol, tout ça. Et en plus, quand les gosses, on les entend dire comme quoi ils étaient contents, entre collègues, ils se sont dit, t'as vu un peu le coup de pied que je lui ai mis dans la tête, tout ça. Ils étaient vraiment heureux de se payer un arbitre.
Il avait eu 6 semaines d'arrêt de travail, Dylan Bayard. À la suite de ça, il avait porté plainte et donc ses agresseurs ont été punis. Le football amateur, connaît cela et d'ailleurs le nombre d'arbitres diminue chaque année, hein, à peu près de 5% par an. Leur nombre, selon la Fédération française, qui est un observatoire des comportements, sur 10 000 incidents signalés, et bien 4 fois sur 10, cela concerne les arbitres. Dans le football amateur, Marc, on a du mal à respecter un arbitre. On voit déjà que c'est pas toujours simple sur les professionnels, alors là les amateurs.
Le problème c'est que le message vient toujours d'en haut et le message il n'est pas positif sur ce qu'on voit. Sur les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, la plupart des joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi j'ai commencé à être arbitré on va dire en 84-85 à peu près, donc c'était à petit niveau, il y avait déjà des problèmes très importants. Donc on se dit non mais ça va évoluer, et puis en fait rien n'évolue. Et aujourd'hui c'est de plus en plus dramatique. Aujourd'hui vous suivez un match, vous pouvez aller à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Strasbourg, il y a des bagarres générales, les arbitres sont obligés de quitter, mais ça devient catastrophique, mais c'est tout le temps, et on nous dit on va faire des choses, en 80, moi je rentre à Marseille en 80-89, certains matchs on les finissait pas, l'arbitre il fallait qu'il parte en courant, il fallait le protéger, et là on est aujourd'hui en 2020 et rien n'a évolué, donc si la Fédé peut faire un peu des choses, ils peuvent parler, mais ils ne font rien, pour eux en tout cas.
C'est France 2 qui avait réalisé ce reportage où on entendait l'arbitre tout à l'heure, écoutons juste José Mourinho en se demandant si le mauvais exemple vient pas d'en haut.
Le carton jaune est justifié car oui, j'ai été impoli, mais j'ai été impoli envers un idiot. Pour certaines raisons, j'ai été impoli. Bon, c'est vrai, je mérite ce jaune.
Le mauvais exemple, on pointe souvent du doigt les joueurs professionnels qui finalement servent d'exemple, Xavier Barré.
Oui, bien sûr, on peut toujours dire ça. Mais moi, écoutez, il se trouve que j'ai 2 garçons, donc j'ai fait pas mal de terrains,
petits
de petits stades en région parisienne. Et encore l'autre jour, j'étais, je crois que c'était à Montrouge, où le club de mon fils jouait. Et il y avait un autre match juste à côté d'une autre. Et il y a un père de famille complètement fou furieux qui s'est jeté sur l'arbitre, qui était un gamin qui arbitrait des gamins encore plus petits. Et il a fallu que les gens se précipitent pour le retenir. Donc là, on parlait pas de Mourinho, si vous voulez. On parle de comportement de gens qui sont complètement fanatisés par le football et qui estiment que leur fils a été volé alors qu'on joue des U8, des U9, des U10. Donc je pense que c'est facile de dire la Fédé fait rien le machin. Je pense que c'est d'abord le comportement des gens. Mais non, si tu regardes le reportage auquel fait allusion Annie qui était diffusé sur France Télé hier, eh bien les gens qui ont été pris là pour les agressions d'arbitres, ils ont pris 9, 10, 12 ans, 20 ans d'interdiction de football. Et donc la Fédé prend des sanctions.
Tu me racontes quelque chose, ça fait 40 ans.
Il n'y a
jamais de sanction.
Mais le problème, c'est le comportement des gens autour
C'est l'éducation. C'est aussi un problème d'éducation des enfants, d'éducation des parents,
par rapport à
l'autorité. Évidemment. Et de gens qui, du coup, des tas de bénévoles partout dans les clubs, et ça touche pas que le foot. Pourquoi il y a de moins en moins de bénévoles et des éducateurs qui ne sont plus là? C'est parce que il y a des problèmes avec les parents, il y a des problèmes avec les enfants qui jouent au foot. Dès 9-10 ans, ils peuvent vous insulter et vous envoyer balader. Et en ce qui concerne les parents, c'est souvent des gens qui planent. Ils sont convaincus que leur fils va faire carrière, qu'ils vont gagner pas du gain, et ils sont convaincus d'être les meilleurs entraîneurs du monde.
C'est vous qui posez les questions, mais est-ce que vous pensez que si c'était que des arbitres femmes autour des terrains, ça serait pareil?
Peut-être pas.
Non, il y aurait peut-être un effet nouveauté pendant un temps, mais après, je pense que
vous pensez que les gens iraient taper
des horreurs, horreurs.
Ouais, ça peut être une idée, Dominique. Il faudrait la suggérer à la Fédération française de football. Qui sait, ça pourrait peut-être calmer les esprits. Malheureusement, osons y croire. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous. Merci à David Finzel, à Pierre Guérin et à Alice Ménard à la réalisation. Et je vous dis à demain.